Pour saisir la nécessité du multi-âge dans une école du troisième type, replaçons-nous dans ce que j'ai défini comme finalité technique et pratique de l'école, c'est-à-dire la construction de tous les langages, d'abord outils neurocognitifs. Nous avons vu que suivant le langage que l'on utilise, on crée et on accède à des mondes différents. On peut aussi dire que l'on agrandit ses propres espaces dans chacun de ces mondes. Cet agrandissement est facile à concevoir pour le langage de la motricité dans le monde des bipèdes, l'homo erectus, et pour le langage oral dans le monde de l'homme qui parle, l'homo loquens. Dans ce second cas, l'espace est plus complexe. Il est à la fois topologique, l'espace relationnel, d'abord réduit à l'espace fusionnel avec sa mère, s'étend peu à peu à la famille, au voisinage, et temporel, puisqu'il crée et fait apparaître le passé, le futur. Il est conceptuel, symbolique. Mais tout le monde peut percevoir facilement l'enfant agrandissant et conquérant cet espace de l'oral. C'est exactement la même chose pour les mondes et les espaces créés par tous les autres langages. Et nous avons vu aussi que pour créer, conquérir, accéder à ces mondes qui constituent notre société, il faut qu'ils existent autour de l'enfant. CQFD me répétait un prof de maths. Simplexité, dirait Alain Berthoz. À partir de cela, il devient simple de comprendre que le jeune enfant qui rentre dans une classe unique et va y vivre, y trouve tous ces espaces déjà créés par d'autres, vécus par d'autres, en cours d'agrandissement par d'autres. Il est naturellement sollicité pour y étendre ses propres espaces que l'on appelle alors cognitifs, partir à leur conquête comme il l'a fait pour la parole. Ce premier point très important a été illustré dans les chroniques concernant les langages. Pour le second point, nous allons nous référer aux travaux du biologiste Francisco Varela, qui nous dit que la structure cognitive de tout être vivant se construit grâce et par rapport aux structures dynamiques des milieux dans lesquels il se trouve. Autrement dit, toute entité ou tout système vivant, ce que nous sommes, se construit dans d'autres entités ou systèmes vivants. On le comprend très facilement quand on considère l'apprentissage de la parole qui se réalise simplement parce que l'enfant vit dans une entité, la famille. Ce sera donc dans d'autres entités que d'autres apprentissages se réaliseront. Appelons ces entités systèmes vivants sociaux. Entités homme et entités sociales évoluant dans l'interaction. Or, les systèmes vivants se constituent par les interactions, les interrelations et surtout les interdépendances entre les éléments qui le constituent. Cela n'est possible que si ces éléments sont différents et ont des apports et des besoins différents, si une synergie peut s'établir entre eux. C'est le cas pour la famille, la plus petite des entités sociales. La constitution en système vivant d'un espace où sont rassemblés des individus et surtout des enfants relativement semblables est beaucoup plus difficile et la synergie est le plus souvent inexistante. Nous l'avons déjà noté à propos de deux types d'orphelinats qui ont été étudiés. Les orphelinats traditionnels, où les enfants sont séparés en niveau d'âge et dans lesquels il a été constaté que la construction du langage oral est très incertaine. Et puis l'orphelinat de Korczak, constituant une véritable entité vivante et hétérogène dans laquelle les constructions langagières s'effectuaient sans problème. Ce devrait donc être le cas pour l'autre entité dans laquelle l'enfant va vivre une partie de son temps, l'école. Lorsque l'on constate avec envie l'ambiance particulièrement conviviale d'une classe unique proche du troisième type, cela ne tient pas au fait que ce sont de petits campagnards que l'on veut penser plus gentils. Cela tient au fait qu'elle constitue bien une entité ayant sa propre vie autonome. Elle s'est créée sa propre structure dynamique avec tous les mécanismes de régulation qui lui permettent de vivre en même temps qu'elle permet à chacun de ses membres de vivre, donc d'évoluer, puisque c'est aussi la caractéristique de tous les êtres vivants, nous apprennent tous les biologistes ou neurobiologistes d'aujourd'hui. L'interdépendance entre les enfants qui la constituent pour la faire vivre et y vivre y est aussi évidente que l'interdépendance entre les organes de notre corps. Comme malignement, cette structure a été aménagée pour que des langages plus particuliers que ceux nécessaires à la famille soient utilisés pour sa vie autonome, ce que nous dit Varela se réalise. Et les enfants construisent l'écrire-lire, le langage mathématique, le langage scientifique dont ils ont alors besoin pour exister dans cette nouvelle entité tout en la faisant vivre. CQFD aura encore dit mon prof de maths. Et un autre point va se réaliser. Tournons-nous cette fois vers une autre notion particulièrement explorée par Hubert Montagnier ou Boris Cyrulnik. Tout être vivant, pour se construire de façon harmonieuse et solide, a besoin d'être dans un état sécure. On peut le résumer en disant que c'est l'état où il est affectivement tranquille. Karl Lorenz, l'éthologiste, l'avait déjà souligné lorsqu'il constatait qu'aucun animal ne pouvait construire un apprentissage durable dans une situation de stress. Et nous sommes aussi des animaux. Cet état sécure, l'enfant devrait le trouver naturellement dans la famille quand celle-ci se constitue normalement à partir des liens affectifs qui relient les uns et les autres. Tout le monde sait que lorsque ces liens se délitent ou prennent des aspects paroxytifs peu équilibrés ou concurrentiels, l'enfant ne va pas bien. Mais l'enfant n'en est pas maître. Dans l'entité scolaire où il poursuit parallèlement sa construction, cette fois l'enfant devra créer lui-même ses liens, en être l'auteur. Ces liens n'étant pas tout à fait de même nature. Dans la famille, ils sont le fondement de l'entité qu'elle constitue. Et ils sont exclusifs. C'est ma maman. C'est mon enfant. Le fondement de l'entité école, c'est le faire et le pouvoir faire parmi et avec les autres. Il y a aussi interdépendance entre chacun de ses membres, mais elle n'est plus liée à leur position statutaire. Et c'est ceci qui va provoquer et nécessiter la création de nouveaux liens affectifs pour que chacun se retrouve dans une situation sécure. Le fait qu'il y ait dans notre école des enfants de tous âges permet naturellement que se constitue cet équilibre affectif plus complexe. D'abord, cela élimine les problèmes de concurrence que l'on retrouve dans tous les groupes constitués d'enfants du même âge. La recherche de la reconnaissance au détriment et par domination des autres, qui peut être la justification psychologique de la concurrence, n'a plus de raison d'être. Les liens se créent dans les actions multiples et diverses, dans le besoin des autres et réciproquement dans ce que l'on peut apporter aux autres. Plus les âges sont variés, plus il est facile d'être celui qui demande de l'aide, plus il est facile d'être celui qui aide. Plus il est facile que chacun soit accepté et reconnu, et dans sa fragilité, et dans sa force. La compétition perd son intérêt. On ne dira jamais assez l'importance de la reconnaissance des uns et des autres par les uns et les autres. Celle-ci aboutissant à l'auto-reconnaissance. Se reconnaître comme quelqu'un, c'est une des clés de l'état sécure, de la tranquillité affective sans laquelle aucune avancée n'est possible. D'autres pourraient dire sans laquelle aucun apprentissage n'est possible. Et nous n'avons abordé que trois raisons qui expliquent la nécessité du multi-âge. Il y en a d'autres. Je vous invite à les explorer avec la prochaine chronique.